Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto.
La salle est maintenant réchauffée, les gars, hein?
Oui, ça va mieux.
Est-ce que je peux enlever le manteau?
Toi, ça va mieux, hein? Parce que nous, on était bons jusque-là.
Oui, ouais, c'est ça. Fait que j'enlève le manteau, vous l'entendez, ou vous le voyez, c'est selon. Et là, tu nous parles d'une voiture, on peut-tu parler d'un muscle car? Non.
Oui.
Enfin, une grosse berline américaine axée sur la performance avec la mentalité américaine d'une autre époque. Là, c'est littéralement ça, là. La Mercury Marauder.
La Mercury Marauder. Et en fait, la Mercury Marauder, elle va servir un peu à essayer de répondre à la question à quoi sert Mercury. Parce qu'au début des années 2000, les Mercury, bah, c'est des Ford Robadger, puis légèrement plus luxueuses, et puis c'est à peu près tout.
Ben, Mercury, en fait, a quitté le marché canadien. Depuis la fin des années 90 au Canada, mais aux États-Unis, on est demeuré là.
Ils vendent encore des grands marquis qui sont Badger Mercury, mais il n'y a pas vraiment de marketing Mercury.
Des voitures exotiques comme la Milan, qui est une fusion avec du chrome. Tu sais, bon, il y a eu plein de...
Et puis, il y a eu la Capri. Ils ont fait déjà une tentative d'essayer de revitaliser un petit peu la marque avec la Capri.
C'était une Mazda 323 décapotable.
Et en fait... Après, il y a eu la Cougar.
Oui, effectivement.
La Cougar. Et ça, ça a été lancé en 99, mais ça a été un flop. Ouais. Ils ont arrivé en 2002. Et en 2002...
C'était pas vilain, c'est ça le pire. Non. Mais qui se rattachait à cette marque-là, rendue là?
Voilà.
Et pourquoi utiliser le nom Cougar sur une voiture qui était tout sauf ça? Parce que la Cougar, c'était rendue une grosse américaine. Dans la tête des gens, c'était une voiture, c'était un coupé de luxe. Là, ça n'avait rien à voir avec une petite sportive à la Ford Probe. Là.
C'est ça.
Alors, ça a été du marketing raté. Mais effectivement, que Mercury, ça sonnait plus dans la tête des gens. Non. Mais la Marauder a amené un brin d'exotisme dans cette famille-là qui n'était plus vraiment là, en fait.
Oui, ils ont essayé d'amener un brin d'exotisme en faisant deux choses. En réutilisant une recette employée par General Motors, et puis en ressortant un nom des cartons, Marauder, qui était un nom utilisé dans les années où Mercury avait sa propre identité. Alors, le nom Marauder apparaît pour la première fois en 58 sur une nouvelle famille de moteurs. Ce nom sera utilisé jusqu'en 68. Et il apparaît pour la première fois sur un modèle en plein milieu du millésime 63. C'est un coupé hardtop pleine grandeur avec une ligne de toit conventionnelle. Parce qu'à l'époque, en 63, les Mercury avaient ce qu'ils appelaient le pare-brise breezeway qui était inversé.
Ouais.
Et c'était pour courir en stock car, tout simplement. Et le nom Marauder revient en 64 comme modèle et en 65 comme groupe d'options. Et là, ça disparaît. Il revient de nouveau en 69, parce que là, c'est l'année de la performance chez Mercury en 69. Il y a la Cougar et l'Eliminator, la Cyclone Spoiler, et ils sortent un coupé pleine grandeur avec le nouveau 429 de 7 litres. Et c'était un coupé qui était aussi disponible dans une série spéciale qui s'appelait X100, avec un arrière peint dans une couleur contrastante semi-mate.
Oui. Moyen.
Ouais. Alors, c'est pas à tous les goûts. Personnellement, j'aime bien, mais ça plaît pas à tout le monde.
Bon, évidemment, on a relancé la Marauder en 2002 pour l'année 2003. Puis c'était une réplique à une voiture General Motors qui était déjà plus là, mais qui venait un peu chercher la clientèle que GM avait laissé aller. Là.
Ben, c'est ça. En fait, ils ont pris la recette de l'Impala SS, qui était en fait une Chevrolet Caprice classique survitaminée avec un moteur de Camaro, des suspensions rabaissées et un look noirci, très macho.
À ne pas confondre avec l'Impala SS du début des années 2000, qui est une traction.
Non.
C'est ça, ça n'a rien à voir. Ouais.
Et en fait, cette Impala SS, qui est lancée en 94, sera commercialisée à plus de 70 000 exemplaires en 3 millésimes. Et même en 96, elle se vendra plus que la Caprice classique sur laquelle elle est basée.
Wow.
Parce que là, c'était la dernière année, les fans se sont jetés là-dessus. Et donc là, ça commence à donner des idées à Steve Babcock, qui est le chef de programme pour les Ford Crown Victoria et Mercury Grand Marquis. Ils commencent à imaginer un modèle similaire sur la plateforme Panther. La plateforme Panther, c'est la base des Crown Victoria, des Grand Marquis et des Town Car, qui a été lancé en 1979. Exactement.
Ouais, exactement.
Et là, Babcock fait réaliser un prototype pour le CIMAT 98.
Ouais.
Alors là, moteur V8 à compresseur de 335 chevaux, grosse roue, peinture noire, déchromage massif, levier de vitesse au plancher, ce que les autres n'avaient pas, console centrale et cadran à flanc blanc. Et il n'y a qu'un nom qui vient dans son esprit, Marauder.
Ouais, et là, on peut imaginer que les réactions ont été vraiment bonnes au CIMA. Oui. C'est l'endroit pour présenter ce genre de truc-là.
Oh oui, les réactions étaient très, très bonnes.
Ouais.
Et Babcock décide d'aller de l'avant. D'autant qu'il sait que les modèles pleine grandeur vont être retravaillés pour le millésime 2003. Il va y avoir des évolutions importantes. Nouveau châssis plus rigide, nouvelle suspension, nouvelle direction à crémaillère et un léger stylage. Donc en fait, lui, il se dit... Bah, Mais il se dit, voilà, bon, on va lancer la Marauder pour le millésime 2003.
Ouais.
Ça sera le bon moment, on profitera de toutes les améliorations de l'auto. Pour redonner un petit peu d'attention au nom Marauder, il y a un concept qui est exposé au salon de Chicago 2002.
Ouais, et ça, là, c'est extraordinaire. Mais coup de théâtre...
Oui.
C'est même pas un coupé, c'est une décapotable.
C'est un cabriolet. Et c'est une carrosserie qui ne sera jamais implémentée, qui a été développée que pour ça. Et on ne comprend pas pourquoi.
Et il y a beaucoup, tu sais, je veux dire, il y a du travail. Là.
Oh, oui.
Ça veut dire réinventer des panneaux de carrosserie, ouais. Des nouvelles portes. Il y a beaucoup de travail pour une voiture qui n'a jamais vu le jour et qui n'avait absolument aucune possibilité de marcher
ça,
en plus.
Clair.
Là. Alors la question, c'est pourquoi? On n'aura jamais la réponse.
Et ça, et le modèle, à ce moment-là, a encore le V8 à compresseur de 335 chevaux.
Bon, là, évidemment, ils ont lancé le véhicule sur le marché, assez près du véhicule concept. Là. Bon, peut-être pas mécaniquement, mais esthétiquement, il n'y avait pas beaucoup de différence.
Oui, dans l'esthétique, il y a très, très peu de différence. Mais mécaniquement, le compresseur a disparu.
Ouais.
Donc là, on retrouve le V8 4 litres 6, 32 soupapes de la Mustang Mach-1. 300 chevaux, 302 chevaux pour être précis, et 318 livres-pieds de couple. Et la voiture a été préparée avec l'aide de Roush, qui est un préparateur spécialisé dans les modèles Ford. La banque d'organes de Ford a été évidemment bien utilisée. Et les Crown Vic Police Interceptor fournissent les freins, les suspensions renforcées, l'arbre de transmission en aluminium et le différentiel à glissement limité renforcé de 3,55 pour 1. Alors, il y a aussi des pièces spécifiques, évidemment les pare-chocs avec des anti-brouillards et le nom Marauder moulé dans le pare-choc à l'arrière.
Comme on l'avait fait avec les Mustangs.
Voilà.
Ouais.
L'échappement, les feux arrière légèrement teintés et des amortisseurs Tokiko à l'avant avec aussi des roues de 18 pouces chromées.
On parle d'une Crown Victoria, là.
Ouais.
C'est drôle de parler de pièces de performance sur une voiture qui n'était pas vouée à ça.
Au départ, non. Mais encore une fois, quand tu as une police interceptor dans ta gamme, ça peut te permettre de faire des choses.
Oui, ouais, c'est ça.
Il y a aussi des changements à l'intérieur avec des sièges en cuir, avec gravé le dieu Mercure, des cadrans à flanc blanc, un compte-tour, qui est une première pour toutes les voitures de la plateforme Panther depuis 1979. Un volant en cuir, une console centrale qui inclut un voltmètre et un indicateur de pression d'huile. Et puis évidemment, le levier de vitesse au plancher. Enfin, comme toutes les autres Panthères, la Marauder est fabriquée à l'usine de Saint-Thomas en Ontario.
Où on fabriquera prochainement des batteries de Volkswagen.
Oh.
Bon, évidemment, c'est une voiture qui n'a pas eu le même succès que l'Impala SS, mais la clientèle l'a quand même appréciée.
Alors oui, la voiture est plutôt accueillie positivement en 2003. La presse la trouve agréable à conduire. Elle apprécie la tenue de route. Elle trouve que les performances sont un petit peu justes. Je vais donner des chiffres. Le magazine Car & Driver réalise le 0 à 60 000 à l'heure en 7 secondes 5 et le quart de mille en 15,5 secondes.
Pas extraordinaire. Ouais.
C'est pas extraordinaire et c'est moins bien qu'une Impala SS de seulement 260 chevaux. Mais par contre, par rapport à l'Impala, la tenue de route est bien meilleure. Et la voiture, histoire de garder l'attitude bad boy, la voiture au début n'est disponible qu'en noir, mais en cours d'année, il y a un gris argent et un bleu perlé qui sont ajoutés.
À la façon des Impala SS, parce qu'au départ, on n'avait que des Impala SS noirs, se sont ajoutés des Bourgognes, des verts par la suite.
Exactement.
Alors, c'est assez fascinant, là. C'est un peu du copier-coller, là.
Ouais, ben,
ça ressemble à l'histoire PT Cruiser et HHR, tu sais.
Ouais, il y a des étonnantes similarités. Ouais. Puis la voiture est aussi, il faut le dire, livrée avec un blouson en cuir spécifique. Et Mercury a développé toute une ligne d'accessoires à l'effigie de maraudeur, des t-shirts, des blousons, des casquettes, il y a même des briquets.
On me dit à l'oreille que la voiture a mieux vieilli que le blouson.
Ben, je te dirais que si aujourd'hui tu arrives à trouver une maraudeur d'occasion et qu'il y a encore le blouson dans le coffre, estime-toi très très content parce que à mon avis, ils sont introuvables.
Ouais, c'est sûr.
Et en fait...
surtout connaissant la qualité des cuirs de Ford de l'époque. Ouais, c'est ça. Et bon, en fait, elle a évolué un peu, la maraudeur, là.
Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que si l'accueil de la presse est bon, le public va trouver la voiture chère et en fait, elle va se vendre nettement moins bien que les 18 000 exemplaires envisagés pour la première année. Ils vont y couler que 7 838 exemplaires.
C'est pas beaucoup, hein? C'est vraiment pas beaucoup.
Non, non, non.
Et aujourd'hui, ce sont des voitures recherchées. Bon, évidemment, c'était le dernier des Mohicans, là. Il n'y a plus eu de voitures comme celle-là par la suite, mais enfin, bref. Sauf qu'on l'a fait un peu évoluer, la voiture, timidement.
En 2004, la boîte 4 rapports 4R70W est remplacée par une 4R75W. Le bleu perlé est substitué pour un rouge foncé.
Ouais.
Et un toit ouvrant optionnel fait son apparition. Mais bon, évidemment, avec un départ compliqué, rien n'y fait. Les ventes baissent de 60%, juste 3214 exemplaires. Et ça va avoir des conséquences sur le reste de la gamme. Parce que là, évidemment, la maraudeur ne sera pas reconduite pour le millésime 2005. Et les développements qui étaient déjà prévus, c'est-à-dire une version à compresseur pour la maraudeur, et des variantes sportives un peu dans le même état d'esprit pour d'autres modèles Mercury qui auraient donné un peu plus de piquant à la gamme, ont été annulés. Et en fait, quand viendra la crise économique de 2008, Ford devra effectivement répondre à la question « à quoi sert Mercury ?» et la marque disparaîtra en 2011.
Mais la Mercury Grand Marquis va lui survivre. Elle va demeurer sur le marché jusqu'en fin d'année 2011, en fait.
Mm-hmm.
Et si je me souviens bien de mémoire, la Mercury Grand Marquis et la Ford Crown Victoria, ce sont les dernières voitures de production à avoir été vendues avec des radiocassettes.
C'est fort possible.
Il y avait ça et la Mercedes Classe S.
Il y avait la Lexus SC430 aussi, qui était une des dernières à avoir un lecteur cassette.
Ah oui, c'est... OK, peut-être. Après ça, ça se peut. Enfin, mais disons que ça s'en venait dépasser produit. Là.
Et en fait, la conclusion, c'est que oui, les ventes de maraudeurs ont été décevantes, mais j'ai réussi à trouver un chiffre. Il semblerait que le programme n'ait coûté que 39 millions de dollars. Ça veut dire que malgré des ventes décevantes, il a quand même été...
Lucratif.
Relativement lucratif pour Ford, parce que 39 millions de dollars pour un constructeur pour Ford, c'est pas grand-chose.
Ça coûte un peu plus cher que ça, réparer des batteries de Bolt. Merci, Hugues.